France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel et à demain.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Notre invitée sera ce soir Christine Gould, compositrice qui a fait de la musique électroacoustique son mode d'expression. Christine Gould est proche des arts plastiques dont elle rejoint la culture, toujours en quête d'une matière sonore, créatrice d'images, porteuse de sens. Je vous propose d'ouvrir cette émission avec notre page phonographique et une nouveauté apportée par François Bonnet.
France Musique.
Retour de l'artiste Rachat Baker sur le label Pan pour la suite de son Traditional Music of Notional Spaces, paru en 2013. Ce second chapitre, à l'instar de son prédécesseur, se compose de deux types de morceaux, les thèmes et les danses, qui explorent des développements temporels différents, sans pour autant se distinguer nettement les uns des autres. C'est que la musique de Rachat Baker est vraiment unique. Alors, unique est un qualificatif souvent galvaudé, mais il semble pourtant être le plus pertinent dans ce cas-là, car le travail de Baker initie une sorte de minimalisme morphologique où tout est affaire de torsion, d'élasticité et de cinétisme. Rien ne perdure, mais rien ne cesse d'apparaître et de disparaître dans une sarabande synthétique et surréelle. Nous écoutons le thème 5, Rachat Baker, Traditional Music of Notional Spaces, volume 2.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait de l'album Traditional Music of National Species Volume 2 de Rachat Baker.
France Musique.
Pour ma part, c'est une madeleine sonore composée en 1970 par Morton Feldman que j'ai apportée dans ma gibecière. Morton Feldman, compositeur qui bouscula les règles de composition en jouant avec la temporalité, les silences et les résonances. En 1970, Feldman entame le cycle The Viola and My Life, cycle qui repose sur les combinaisons possibles de l'alto en rencontre avec divers instruments. Contrairement à son habitude, Feldman indique ici un tempo précis qui a pour but de structurer les nuances crescendi, décrescendi de l'alto. Feldman joue dans un premier temps sur une production sonore presque inaudible qui se réfère à l'idée de surface de laquelle émergeraient des sons flottants, comme dit le compositeur. La version que nous découvrirons dans un instant fut enregistrée en 1992 par l'ensemble Recherche. Extrait de The Viola and My Life de Morton Feldman, dans la version proposée par l'ensemble Recherche en 1992.
France Musique. Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne.
Compositrice et pédagogue reconnue, Christine Groulx poursuit une aventure musicale exigeante, constamment à la recherche de la poésie des sons, à leur découverte, leur capture, leur transformation, jusqu'à leur libération. À travers une approche plastique du sonore, Christine Groulx déjoue le jeu des catégories, composant ainsi tout autant pour le concert, le théâtre et la chorégraphie, mais également pour des espaces autres, hors des lieux habituellement dédiés aux spectacles musicaux. C'est de cette démarche et de sa propre musique que Christine Groulx va nous entretenir ce soir. Elle est l'invitée de ce tapage nocturne. Christine Groulx, bonsoir. Comment découvrez-vous la démarche concrète ?
Alors, il y a déjà fort longtemps, grâce à la radio, très jeune, j'écoutais France Musique, France Culture, et surtout France Culture d'ailleurs à l'époque. Et le jour où j'ai entendu les variations pour une porte et un soupir de Pierre-Henri, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je sentais que c'était une démarche concrète, avec ses grincements, ses soupirs, à cette époque-là. J'avais demandé aussi, quand j'étais jeune, un magnétophone. Donc à l'époque, il n'y avait même pas de cassette. On était monté à Paris à l'époque, j'étais en Normandie, pour acheter un magnétophone à pile et à secteur. J'ai commencé à enregistrer des sons de procession espagnole, par exemple. On allait en voyage en Espagne et j'étais très impressionnée par les musiques, le rythme des processions, avec des musiques et des pas. Et j'ai commencé à enregistrer. Quand j'ai écouté la radio, il y avait énormément d'émissions à l'époque sur cette musique, en fait, avec Schaeffer, Henri, et ça répondait à une demande personnelle, à quelque chose qui me touchait beaucoup, du travail de l'écoute. Je vivais à la campagne assez solitaire et donc j'étais très à l'écoute de ce qui se passait à l'extérieur. Donc je pense qu'il y a eu une rencontre à ce moment-là et voilà, et j'ai commencé à faire de la musique concrète, acousmatique.
Thank you.
Alors, vous avez eu une formation multiple au GRM, au Conservatoire expérimental de Pantin, à la Sorbonne en musicologie. Comment ces différents apprentissages sont-ils combinés pour le développement de votre propre musique ?
Là aussi, c'était une période assez extraordinaire parce que j'ai eu la chance de pouvoir commencer le stage du GRM. En arrivant à Paris, il y avait un concours d'entrée avec des tests. Et comme j'avais écouté la radio et que j'avais lu le traité des objets musicaux, à l'époque, je pense que ça m'a permis de réussir tous les tests pour entrer au GRM. Alors qu'à l'époque, je n'avais pas énormément de diplômes musicaux. J'étais assez autodidacte et amateur, on va dire. Je n'avais pas eu l'occasion de faire de grosses études musicales. Donc, il y a eu le GRM qui était une chose importante. Parallèlement, je faisais du chant et j'ai voulu continuer mes études de chant. Donc, il s'est trouvé que je suis allée au Conservatoire expérimental de Pantin, qui était un lieu tout à fait fabuleux, très typique aussi de cette époque-là, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités, où on mélangeait à la fois l'électroacoustique, il y avait un studio pédagogique aussi, on faisait de la direction d'orchestre et on faisait surtout aussi de l'expression corporelle, ce qui était quand même assez étonnant pour un conservatoire. Et on travaillait beaucoup le rapport entre le geste et le son et la musique, au niveau plastique, au niveau corporel, au niveau donc électroacoustique. Donc c'est un lieu qui m'a beaucoup marqué. Et la Sorbonne, disons que j'ai fait la Sorbonne parce que avec le bac et adorant la musique, c'était un lieu où je pouvais entrer et faire des études musicologiques. Mais j'étais à la Sorbonne, c'était Chaillé qui dirigeait à l'époque et ça s'arrêtait à Debussy, à peu près. Donc ça m'a pas passionné, disons, mais enfin bon, j'ai continué et très vite d'ailleurs j'ai bifurqué et j'ai fait de la linguistique. Parce que Schaeffer parlait beaucoup de linguistique, de sémiologie, et donc comme je l'avais encore, il est de mon temps, il y avait Schaeffer qui avait un cours par semaine, et j'étais très intriguée par tout ce qu'il pouvait raconter autour de la linguistique et de la sémiologie, et donc ensuite j'ai fait de la linguistique en fait.
Thank you.
Alors pendant longtemps, vous avez été une enseignante engagée, d'abord à Chalon-sur-Saône, puis à Pantin. Ça a été une part importante de votre carrière musicale, l'enseignement ?
Oui, je me suis toujours sentie compositrice, avant tout, créatrice. Et peut-être qu'au début, j'ai fait de l'enseignement pour gagner ma vie, tout simplement, parce qu'à un moment donné, je me suis un petit peu aussi... j'ai suivi un autre chemin puisque j'ai travaillé à l'IRCAM pendant 10 ans, où là, c'était pas du tout une démarche concrète acousmatique, mais disons que la technologie était là pour prolonger l'instrument. À l'époque, c'était difficile. Moi, j'étais jeune et je me rendais pas compte de tous ces courants esthétiques, de toutes ces différences. Et donc, l'IRCAM, c'était quand même un lieu de recherche tout à fait passionnant. J'ai eu l'opportunité d'y travailler, ce qui était formidable. Ça m'a appris beaucoup de choses. Mais esthétiquement, je me suis un peu, en tant que moi compositrice, je me suis un peu perdue. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça. Il faut que je revienne aux sources, à mes sources, c'est-à-dire aux sources de du côté de la musique concrète. Et notamment du son microphonique qui me passionne. Je veux dire, c'est à partir de ça que j'ai travaillé personnellement. Donc l'enseignement, au début, on va dire que c'était peut-être pour quitter l'IRCAM et retrouver un travail. J'ai eu l'opportunité de m'occuper du studio de Chalon-sur-Saône, qui était aussi au sein d'un conservatoire expérimental, un peu l'équivalent de Pantin d'ailleurs, un conservatoire tout à fait fabuleux. Il y avait une formation d'étudiants en animation musicale qui durait 3 ans, donc c'était un public tout à fait ouvert et tout à fait sympathique, et je les avais comme étudiants. Et ça m'a donné vraiment le goût de l'enseignement, c'est-à-dire de ce contact avec des jeunes gens qui sont en général très motivés parce qu'ils veulent déjà faire de la composition. En tous les cas, ils sont intéressés par la création. Et donc, pendant quelques années, j'ai pu avoir ce studio qui était tout à fait bien équipé en analogique. Il y avait des studeurs, des magnétophones magnifiques, il y avait une console extraordinaire. Donc j'ai fait, après 10 ans d'informatique, je suis revenue tout d'un coup à l'analogique et au magnétophone et à la bande magnétique, ce qui a été une expérience très sympa. Et tout de suite, je me suis remise à composer, c'était beaucoup plus direct, c'était ce qui répondait à ma sensibilité, disons, de travailler avec du son et avec l'écoute. Du son, donc dans cette démarche de Schaeffer de l'écoute réduite.
Et enseigner, l'acte d'enseigner, c'est quelque chose qui a pu débloquer ou fournir de nouveaux chemins, nouveaux accès à votre processus de composition ?
C'est complexe, la relation d'enseigner la composition électroacoustique et la démarche de compositrice, c'est pas si simple, je crois. Donc, à la fois, c'est très stimulant d'avoir des jeunes gens, c'est très stimulant d'enseigner. Parce que d'une part, je préparais des cours, il y a tout un contenu que j'ai travaillé qui je n'aurais peut-être pas travaillé si je n'avais pas eu à l'enseigner. Techniquement, ça m'a vraiment poussé au cul, comme on dit, parce qu'il fallait que je sois au parfum de la technologie la plus récente. Et donc, j'avais toujours un petit métro d'avance par rapport aux étudiants. Et même à la fin, j'avais même plus un métro d'avance. Mais finalement, c'est pas très gênant. Je me suis aperçue, en prenant confiance, je me suis aperçue que j'enseignais pas la technologie, j'enseignais finalement la composition. Mais au début, c'était un peu plus difficile. Par contre, à la fin, la classe était quand même très stimulante et très... Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, on faisait des concerts, il y avait un acousmonium. C'était quand même une classe très dynamique, on va dire. Et à force d'avoir de très bons élèves, petit à petit, je sentais aussi que je pouvais perdre un contact à ma composition. C'est-à-dire, à force d'entendre beaucoup de choses, de très bonnes choses, parfois, je ne suis pas sûre que ça m'ait stimulée, finalement. Parce que quelque part, je me retrouvais chez moi et je me disais, mais j'ai déjà entendu ça. Il y avait quelque chose qui se passait que j'avais perdu comme un lien à ma création la plus personnelle, on va dire. Voilà. Donc maintenant, je n'enseigne plus puisque je suis à la retraite. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, je redécouvre un petit peu mon univers, ce que j'ai vraiment envie de faire, sans avoir de comparaison, de compte à rendre, etc. Donc on va voir, c'est une nouvelle aventure.
Alors pour finir sur ce volet enseignement, il semble effectivement qu'il y avait une émulation assez spéciale à Pantin, avec des profils d'étudiants très hétéroclites. C'était une volonté de votre part d'ouvrir les portes du conservatoire à des profils différents ?
Une volonté, je pense aussi que j'ai été formée quand même à Pantin, au sein d'un conservatoire, qu'à l'époque c'était justement un conservatoire très, très ouvert, où par exemple l'expression corporelle remplaçait le solfège, ce qui était quand même pas rien. Et je pense que j'ai été nourrie par cette pensée-là, et que peut-être très inconsciemment et naturellement j'ai maintenu, puisque c'est là où j'avais fait ma formation et c'est là ensuite que j'ai enseigné. Et j'ai toujours été attachée d'une part à l'ouverture dans la vie d'une manière générale. Je pense que c'est une position qui est quand même beaucoup plus vivante que les fermetures et les chapelles. Le son, c'est de la musique, certes, c'est de la composition électroacoustique, mais donc on a affaire à du son. Que le son, il appartient à beaucoup de spécialités. Il appartient aux ingénieurs du son, il appartient à la radio, il appartient, enfin bref, il est partout présent. Et que, par exemple, j'ai remarqué que les plasticiens avaient un rapport à la création et au son très différent des musiciens. Donc ça m'a donné envie de travailler avec eux. Et je m'apercevais d'ailleurs que quand j'avais des élèves qui venaient du Conservatoire de Paris, je me sentais beaucoup moins à l'aise qu'avec finalement des plasticiens ou des chorégraphes, voire même des architectes, voire même des gens plus jeunes. Donc c'est déjà une chose. Donc moi j'avais vraiment une volonté d'ouvrir à des gens qui venaient d'une formation différente. Et ensuite j'avais beaucoup d'ingénieurs du son qui venaient aussi, de techniciens son. J'ai eu beaucoup de femmes peut-être d'ailleurs qui venaient de la création radiophonique, qui étaient passionnées par l'art, leur spiel, ce qu'on appelle la création radiophonique. Et ça m'a énormément intéressée parce que je trouvais que c'était aussi une manière de s'exprimer, qui à la fois ne demande pas des moyens inouïs et en même temps où il y a vraiment à la fois du contenu et à la fois de la musique et de la créativité. Et j'avais envie de développer aussi ce courant-là, en tous les cas de répondre à cette demande-là, même si moi, je sais pas ce que j'ai pratiqué. Il y avait une ouverture. Et donc maintenant, par exemple, quand je vois ce qui se passe avec la scène électronique, comme on dit, bon, ça ne me fait pas peur. Parce que je trouve que là aussi, il y a un vrai goût de l'électronique, un vrai goût des jeunes gens par rapport à ça, par rapport à ces outils, par rapport à ce qu'on peut en faire, et que j'ai l'impression que c'est là aussi où on peut avoir un échange fructueux entre des gens qui ont cette espèce d'expérience très forte du son, du montage, une vraie connaissance de l'écoute, et une autre expérience de gens plus jeunes qui viennent pas forcément du son et de la musique et qui n'ont pas forcément de formation musicale, mais même au sens de... Moi, j'étais pétrie de musique classique, par exemple, même si j'ai pas fait des études de conservatoire. Bon, j'en ai écouté toute ma vie et je la connais très, très bien. Il y a des gens qui viennent, même dans les techniciens son, il y avait des gens qui vraiment n'avaient pas de culture, on va dire, classique, savante de la musique. Le fait que ça puisse se mélanger, le fait justement d'en discuter, et je trouve que c'est plutôt riche comme démarche.
Alors, pour caractériser votre rapport au son, vous employez un adjectif qui est finalement peu usité en musique, c'est celui de poétique. Qu'est-ce que c'est pour vous la poésie du son, ça, dans l'électroacoustique?
Alors, je dirais que ça, c'est le côté très personnel de mon travail, je pense. En tous les cas, je le sens comme ça. Ce que j'appellerais poétique, c'est que le fait de travailler avec le son microphonique, donc c'est du son qui existe quelque part dans la nature, bien que ça soit nous qui l'écoutions, mais quand même. Et c'est du son donc peut-être banalisé, du son quotidien, du son qui n'est pas forcément, entre guillemets, artistique. La démarche d'aller chercher déjà des sons, et à partir du moment où justement, comme disait Schaeffer, il est sur un support et il est coupé petit à petit du visuel, déjà rien que cet acte-là, d'entendre un son où on ne voit plus la source, je trouve que déjà ça c'est extrêmement... révolutionnaire et puis surtout très intéressant. Parce qu'évidemment, on entend plus avec l'œil qu'avec l'oreille, d'une manière générale, dans l'environnement. Bon, déjà, là, je trouve qu'il y a un acte déjà poétique. Bon, après, ce que je cherche, moi, dans le son du quotidien, dans le son anecdotique, c'est pas du tout l'anecdote. Évidemment, ça m'intéresse pas du tout. Après, c'est petit à petit, à l'intérieur de ce son qui... garde un rapport au sens, au corps, au toucher. Je veux dire, elle a quelque chose d'acoustique, de naturel, dont on a la mémoire, on en a une image inconsciente, etc. Le fait aussi de répéter, d'avoir une écoute réduite, c'est-à-dire de répéter le son, de pouvoir le réécouter, et ainsi de suite, on arrive à une sorte de méditation du son qui fait que petit à petit, il y a quelque chose d'abstrait qui va sortir de ça. C'est-à-dire, on va s'attacher à la matière, on va s'attacher au mouvement, on va s'attacher à des choses imperceptibles qui vont jaillir petit à petit à force de l'écouter et qui est de l'ordre de la sensation. Je veux dire, moi, je vais aller chercher des sensations très, un peu même corporelles qui vont petit à petit se transformer, devenir un peu abstraites et donnent accès à une sorte d'inédit. De sens, d'inédit dans son expérience, et c'est avec ça que je vais composer. Donc c'est dans ce sens-là où le son microphonique m'intéresse et où je le sens poétique. Et c'est même une sorte de dramaturgie, parce que d'un côté je vais avoir un projet quand même derrière la tête, toujours, enfin, ou en tous les cas une recherche, et parallèlement c'est aussi en écoutant le son que petit à petit jaillissent des sortes d'images qui sont quand même après écrits grâce au montage. Il y a une sorte d'écriture, de support, où j'amplifie un petit peu ce côté de sensation. C'est-à-dire, ça se construit. C'est-à-dire, ça part au début de la prise de son. C'est à toutes les étapes, disons, de la création que petit à petit, ça va devenir plus complexe et ça va finir par faire une œuvre, une création musicale.
Thank you.
Pouvez-vous nous parler du projet Musique in situ ?
J'ai une passion pour l'architecture, une passion pour les sites intéressants. Quand je compose, qui ne sont pas des projets in situ, je ne peux pas composer sans penser à l'espace où la musique va être projetée. Et même, ça me permet de démarrer, de savoir où je vais jouer cette musique-là. Et plus les lieux sont, disons, un petit peu étonnants, et plus ça stimule mon imagination. L'idée de musique in situ, ça a commencé en 99, donc à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup moins de choses qui se passaient dehors, dans la rue, etc. Et on avait plus l'habitude d'écouter la musique de support sur un acousmonium, dans une salle de concert, en général à l'italienne, où il n'y a rien à voir. On attend, on a l'impression qu'on va voir quelque chose, mais il n'y a rien à paraître. Enfin, je trouve que ce ne sont pas forcément les meilleures conditions pour écouter cette musique-là. Et donc, j'avais pensé que d'écouter une musique allongée sur de l'herbe, en regardant les étoiles dehors, c'était finalement beaucoup plus une invitation à la rêverie et à l'écoute pour cette musique qui demande quand même à la fois de la concentration et de se laisser aller aux images que propose cette musique. Et que donc, le fait d'être allongé favorise le rêve, favorise cet accès à un petit peu se laisser aller, à l'accepter beaucoup mieux. Parce que c'est pas si facile d'écouter une musique quand on n'a rien à voir. Finalement, ça fait appel à des peurs un peu enfantines, etc. Ce qui fait qu'il y a des défenses qui se mettent en place très très vite. Alors que si on est allongé, on voit les étoiles, c'est plus normal. Et tout d'un coup, on peut s'embarquer beaucoup plus vite dans le monde, dans l'univers proposé. L'idée, c'était de proposer des concerts déjà en plein air. Et ensuite, ça a été carrément de faire des créations in situ, c'est-à-dire de profiter des sites pour pouvoir s'inspirer du site au niveau de l'imagination et proposer des actes poétiques, toujours pareil, à propos de ces sites. J'ai fait beaucoup de projets sur le canal de l'Ourcq. C'est donc un long canal. En partant, mettons, de la Villette, déjà, ça va vers la banlieue. Ça passe à Pantin, ça passe à Bobigny, ça continue pendant 150 km. Le premier projet que j'ai fait, c'était l'idée un peu de réunir Paris à la banlieue. Parce que après le périphérique, les Parisiens ne veulent jamais sortir au-delà du périphérique. C'est quand même très coupé, un peu moins maintenant. Et puis, il y avait ce site de la Villette qui était absolument extraordinaire, complètement réhabilité. Puis ensuite, justement, on passait de périph' et ça devenait la banlieue, la zone industrielle. Et puis c'était complètement glauque. Et même, on n'avait pas envie d'y aller, quoi. Et l'idée de pouvoir faire... Alors, on a avec l'Art au quotidien, c'est une association. Ce projet a été mené sur des vélos. On avait installé des haut-parleurs stéréo sur des vélos avec tout un système électronique de batterie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Bluetooth, évidemment. Et donc, tout le week-end, comme ça, il y avait des balades à bicyclette qui se passaient avec les haut-parleurs sur les vélos. L'intérêt, il y avait aussi donc une chorégraphe, il y avait Julie Desprairies, il y avait une metteur en scène, il y avait un sculpteur. Donc, il y avait des haltes artistiques tout le long du canal. Et les vélos servaient de diffuseurs, ce qui était très pratique parce que pour la chorégraphie, les gens posaient les vélos. Tout d'un coup, les haut-parleurs donc, se mettaient tout autour d'une péniche. Et puis, on avait une espèce d'acousmonium portatif, comme ça, sur des vélos. Donc, c'était plutôt très sympa. Et le fait aussi d'avoir de la musique qui accompagne une balade à bicyclette, ça paraît peut-être idiot maintenant, mais il n'y avait pas non plus les écouteurs. Enfin, c'était en 2004, bon, il n'y a pas si longtemps, hein, mais c'était le premier projet. On traversait tous les chantiers du TGV. C'était la construction du TGV pour Strasbourg. Donc, il y avait tous les chantiers de la SNCF à Pantin. Et le fait d'écouter de la musique électroacoustique avec un décor comme ça, tout d'un coup, ça rendait la banlieue mais magnifique, quoi. Tout d'un coup, le canal, il était devenu féerique, quasiment. Alors que si on est tout seul à pied sur les bords à cette époque-là, au bord du canal, franchement, on avait la trouille, quoi. Donc, c'était un acte aussi artistique où on découvrait ça. C'était comme une distance qu'apporte l'art, d'ailleurs un peu comme le cinéma, ça crée une distance qui fait qu'on voit la chose autrement, on peut l'analyser, on peut la comprendre, on peut la mettre à distance et c'est vraiment intéressant. Bon, ça c'est un exemple, mais j'ai fait beaucoup de choses comme ça en essayant de trouver des... Alors, j'ai fait aussi une balade en pleine montagne sur un chemin de randonnée avec tout un mur de 150 mètres de long, avec des petites têtes en terre dessinées par un sculpteur de là-bas où j'avais mis des petits haut-parleurs avec... un ingénieur du son de Valence, Seco, avec qui j'ai beaucoup travaillé parce qu'on arrivait à faire des installations très très jolies. Et donc en pleine nature, comme ça, tout d'un coup, il y avait de la musique électroacoustique qui se mettait en marche et ça a été une belle période aussi. Et voilà, ainsi de suite.
Merci Christine Groot.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était Delphine Baudet, Nicolas Depagraf et Selim Guéribi, attaché de production Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Alabrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.